Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. L'histoire, la grande histoire, la belle histoire qui unit la Charente-Maritime au Canada en général, et au Québec en particulier, le Québec que l'on appelle aussi la belle province, cette histoire est riche et nous avons choisi d'en évoquer dans cette chronique quelques-uns de ses épisodes les plus marquants. Citons d'abord celui qui est décrit comme le premier colonisateur de la Nouvelle-France, le Royanais Pierre du Gadomont, qui fonde en 1605, sous le règne de Henri IV, Port-Royal, devenu depuis Annapolis Royal, aujourd'hui situé dans la province de Nouvelle-Écosse. 3 ans plus tard, en 1608, c'est son lieutenant Samuel de Champlain, natif de Brouage, qui fonde la ville de Québec sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Champlain que d'aucuns considèrent comme le père fondateur de la Nouvelle-France. Plusieurs villes ou villages de Charente-Maritime sont jumelés avec des localités du Canada. En toute logique, Royan, fief de Pierre du Gadomont, est jumelé avec Annapolis Royal. Dompierre-sur-Mer est jumelé avec Saint-Antoine de Richelieu, au Québec. Charon avec le Cap Pelé, devenu récemment Cap Acadie. Marennes-Hiers-Brouage avec Caraquet dans la province du Nouveau-Brunswick et avec Champlain, situé près de Trois-Rivières, au Québec. Saint-Jean-d'Angély avec Saint-Sulpice et Pont avec l'Assomption, également situé au Québec. Quelques décennies après la fondation de Québec, au début des années 1660, c'est Jean-Baptiste Colbert, bien connu sous nos latitudes, qui va jouer un rôle majeur en intervenant auprès du roi Louis XIV. Pour assurer le développement de la Nouvelle-France, lui donner un avenir, il faut commencer par peupler la colonie. Elle compte alors très peu de femmes et les mariages espérés entre des colons français et des indiennes issues de ce que l'on appelle aujourd'hui les Premières Nations n'ont conduit qu'à un nombre limité d'unions. Colbert convainc le roi Soleil d'envoyer des jeunes femmes pour fonder des foyers en Nouvelle-France. C'est l'épisode de celles que l'on appellera les filles du roi, ou encore filles de Colbert. Ces Françaises, souvent très jeunes et rarement volontaires, qui sont arrachées à leur terre, à leur famille, pour un grand voyage vers l'inconnu. Au temps de Richelieu, de la compagnie des 100 associés, il y avait déjà eu quelques départs, mais cette fois, c'est Colbert qui prend les choses en main. Le premier contingent, emmenant des filles du roi, quitte le port de La Rochelle en mai 1663, 55 ans après la fondation de Québec par Samuel de Champlain. Navire de 200 tonneaux, le Phénix de Flessingue, c'est son nom, passe entre la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas et part pour une traversée périlleuse de l'océan Atlantique. Certaines de ces jeunes femmes ne survivront pas au voyage, qui se déroule dans des conditions précaires, dans la soute du navire. L'épisode des filles du roi va durer une dizaine d'années. Environ 900 femmes, célibataires pour la plupart, quelques veuves aussi, partiront de La Rochelle puis du port du Havre en Normandie, pour la Nouvelle-France. 6 à 7 semaines après son départ de La Rochelle, le Phénix de Flessingue atteint les côtes de Terre-Neuve, le golfe du Saint-Laurent et la pointe de la Gaspésie. Puis il remonte le Saint-Laurent, ce fleuve à nul autre pareil, en direction de Tadoussac, au confluent du Saguenay, ce fjord magistral qui conduit au lac Saint-Jean. L'histoire ne dit pas si en naviguant du côté de Tadoussac, les colons français ont croisé des baleines. C'est aujourd'hui l'un des principaux sites d'observation de ces mammifères cétacés. Puis le voyage se poursuit sur le Saint-Laurent jusqu'à l'île d'Orléans. Nous avons notre île d'Oléron, les Québécois ont leur île d'Orléans, l'un des plus anciens foyers de la présence française en Amérique du Nord. Citons notamment les villages de Sainte-Famille ou de Sainte-Pétronille, mais aussi Saint-Pierre, comme à Oléron. Et puis le Phénix de Flessingue arrive enfin dans le port de Québec, où il jette l'ancre en juin 1663. Autre épisode majeur qui témoigne de l'amitié entre notre pays et le Québec, c'est l'arrivée près d'un siècle plus tard, en 1756, de la flotte, partie de Brest, mais aussi de Rochefort, emmenant le marquis de Montcalm. Le marquis vient prendre le commandement des troupes françaises en Amérique du Nord, Canada, Acadie et Louisiane. Nous sommes désormais sous le règne de Louis XV, au début de la guerre de 7 ans, qui va opposer la France et ses alliés aux Anglais, sur 3 continents. La vieille Europe, bien sûr, mais aussi les Indes et le Nouveau Monde, de 1756 à 1763. Montcalm gagnera de belles batailles, comme la bataille de Fort Schwagen ou Fort Oswego, sur la rive sud du lac Ontario. Une bataille dont il décrit chaque mouvement dans son propre journal, expliquant notamment comment ses troupes ont réussi à surprendre l'ennemi en arrivant de nuit, en longeant les rives du lac. Montcalm qui défendra la Nouvelle-France jusqu'au soir de sa vie, lors de la célèbre bataille des plaines d'Abraham de Québec. Cette bataille qui verra les deux généraux ennemis, le marquis de Montcalm donc, et le général anglais James Wolfe, périr à l'issue des combats en septembre 1759. La bataille des plaines d'Abraham, perdue par les Français, qui provoque la chute de Québec et scelle le destin de la Nouvelle-France. Le traité de Paris en 1763 sera ainsi l'issue funeste de 7 ans de guerre. Au fil des siècles, les échanges ont toujours été nombreux entre la Charente-Maritime et le Canada, notamment entre les villes de La Rochelle et de Québec. Avant toute chose, il s'agissait du commerce maritime, du négoce des peaux et des fourrures. Mais l'histoire entre nos deux pays s'est écrite aussi à Rochefort à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, notamment sous Louis XV pendant la guerre de Sept Ans, pour soutenir l'effort de guerre. Il fallait construire les navires, les équiper de canons pour combattre l'ennemi sur trois continents. C'est bien sûr en visitant ou revisitant l'arsenal de Rochefort, ses formes de radoubes, la corderie royale et le musée national de la marine, riche de ses prestigieuses collections de modèles, d'objets de navigation mais aussi de tableaux de maître, que l'on prend toute la mesure du rôle majeur joué par la cité de Colbert. Et La Rochelle, c'est en visitant une autre perle de notre patrimoine, le musée du Nouveau Monde, que l'on peut se replonger dans plusieurs siècles d'histoire entre la France et le Nouveau Monde, pour mieux en comprendre les enjeux. L'histoire commune entre la France et le Canada, entre la Charente-Maritime et le Québec, on la retrouve aussi dans ce même musée du Nouveau Monde, sur les Portulans, ces cartes qui étaient des œuvres d'art et souvent des secrets d'État, établies par les cartographes des rois, indiquant les mers et les océans, les continents lointains, les terres conquises ou à conquérir, mais aussi les terra incognita, les terres inconnues qui restaient à découvrir et qui fascinaient tant. Qu'allait-on y trouver? Quelle terre sauvage? Quel peuple? Quel paysage? Hospitalier ou hostile? Sur les traces des premiers colons, de Pierre du Gadomont ou de Samuel de Champlain, de nombreux Charentais et Charentais maritimes, des Vendéens, des Bretons, des Normands, sont partis tenter l'aventure de la Nouvelle-France au fil des siècles. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui migrent vers le Canada pour prendre un nouveau départ, refaire leur vie. C'est ainsi que l'on retrouve des descendants de familles charentaises maritimes chez les Acadiens, notamment dans la province du Nouveau-Brunswick. Nous les retrouvons un peu partout au Canada, à Québec bien sûr, sur l'île d'Orléans, mais aussi à Sainte-Foy, à Laval, à Montréal, l'ancienne Ville-Marie, à Trois-Rivières, à Rimouski, à Saint-Irénée. On retrouve des noms de famille qui nous sont familiers. On retrouve aussi un accent, des intonations, des mots venus de chez nous, encore utilisés dans nos campagnes aujourd'hui, et que l'on a la surprise d'entendre en se baladant à travers le Québec. C'est dire une fois de plus si les liens qui nous unissent sont forts et pérennes. Quand on se trouve à Brouage, berceau de Samuel de Champlain, on pense à la Nouvelle-France, à la ville de Québec, au Canada, à ces filles du roi parties au XVIIe siècle. Et lorsqu'on voyage de l'autre côté de l'océan Atlantique, que l'on se balade dans la ville de Québec sur la terrasse Dufferin, le long du majestueux château Frontenac dominant le fleuve Saint-Laurent, quand on passe devant la statue célébrant le fondateur de la ville, Samuel de Champlain, né à Brouage en Saintonge, on a une pensée émue pour l'ancienne capitale européenne du sel, cette place forte qui fait la fierté des Charentais maritimes, cette citadelle chère à Louis XIV et à la femme qu'il aimait, Marie Mancini. Nous avons une pensée pour nos rivages. Située au cœur de la citadelle de Brouage, la maison Champlain est un témoin de l'amitié entre la France et le Canada, preuve que l'histoire s'écrit encore aujourd'hui et qu'elle s'écrira encore demain. Oui, elle s'écrit aujourd'hui avec des échanges commerciaux, des échanges culturels, des échanges entre étudiants de nos deux pays. Elle s'écrit avec la dynamique association France-Canada, présidée par l'ancien maire de Marennes. Elle s'écrira encore à la fin de cette année 2026 avec la création d'un institut de la francophonie, basé en Charente-Maritime, dont le nom exact et le port d'attache seront bientôt dévoilés, qui aura pour vocation de célébrer l'amitié entre les nations ou les régions francophones ou francophiles à travers le monde. Mais aussi l'ambition de construire un nouveau pont entre notre région et le Québec pour célébrer notre mémoire commune, la langue qui nous unit, renforcer encore nos liens géopolitiques, nos échanges culturels et commerciaux et notre destinée commune. Nous en reparlerons très prochainement. Belle journée à tous.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du patrimoine sur Demoiselles.